de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Durant ces dernières semaines, nous avons parlé des passions qui nous emmènent en enfer. La gourmandise, la luxure, la tristesse, la colère, la jalousie, l'avarice, l'orgueil. À partir d'aujourd'hui, nous allons parler des vertus qui nous permettent de retrouver le chemin de la vie. La vertu est une qualité qui devient une force à partir du moment où on la cultive et qui permet de faire rayonner la vie. Pour comprendre les vertus qui sauvent, il faut revenir sur la question du salut afin de pouvoir actualiser celle-ci au niveau de l'expérience personnelle. Toute la vision chrétienne de la morale se trouve dans cette parole que l'on trouve aussi bien chez Irénée de Lyon que chez saint Athanase, à savoir que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Attention à ne pas faire d'erreur. Certains pourraient penser qu'il est orgueilleux de se prendre pour Dieu. Quand il est dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, il ne s'agit pas pour l'homme de se faire Dieu tout seul. Mais il s'agit pour l'homme non pas de se faire Dieu, mais de vivre avec Dieu la vie divine. C'est-à-dire la vie qui n'est pas simplement vivante, qui est plus que vivante, parce qu'elle révèle un monde inconnu, un homme inconnu, un Dieu inconnu, une vie inconnue. Nous pouvons perdre le chemin qui mène au plus que vivant. Nous le perdons quand nous basculons dans ce que nous appelons la morale et que nous pensons être le bien. La vie divine ne consiste pas à être dans le bien et le mal. La vie divine consiste à laisser Dieu agir en nous, en vivant la vie pour la vie, le bien pour le bien. Lorsqu'il est recommandé à l'homme de ne pas opposer le bien au mal, et donc de se garder du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'agit là d'une profonde sagesse. Lorsque je fais du bien le contraire du mal, le bien étant le contraire du mal, il a besoin du mal pour exister. Donc, c'est le mal qui est bien. Et quand le mal est le contraire du bien, pour être le mal a besoin du bien. Ce qui fait que nous aboutissons sans nous en rendre compte à un monde qui est gouverné par le mal. Le mal, c'est le bien. Et le mal a intérêt à ce que le bien existe pour mieux le terrasser. Ça, c'est ce qui se passe quand l'intelligence humaine est pervertie. Elle est pervertie quand elle veut tout comprendre pour satisfaire le besoin de pouvoir et de domination. L'intelligence humaine est libérée lorsque celle-ci revient dans le cœur, c'est-à-dire dans l'être vivant ne cessant de vivre. L'être vivant qui ne cesse de vivre ne cherche pas à rationaliser les choses. Et il ne passe pas par le mal pour pouvoir exister. Il vit le bien pour le bien. Et, vivant ainsi, il est sauvé. On demandait au père du désert ce qu'il faisait, et il disait qu'il priait pour transfigurer l'intelligence. Et que veut dire transfigurer l'intelligence ? Retrouver l'intelligence originelle qui ne pense plus en termes de bien et de mal, mais qui vit le bien pour le bien, l'amour pour l'amour, Dieu pour Dieu. Dans la culture, il existe une tentation. La tentation, c'est de se croire le plus fort et de montrer qu'on est le plus fort en se damnant. Je sais que quelque chose est mal, mais je veux pouvoir me sentir le plus fort. Et parce que je veux me sentir le plus fort, je fais le mal pour le mal. Je me fais du mal et je fais du mal aux autres gratuitement. Là, on est dans un processus de damnation. La caractéristique de la vie en Christ, c'est de nous sauver de la damnation. Et nous sauver de la damnation veut dire que on reprend complètement la connaissance en montrant quoi ? Que l'homme est appelé à la royauté, mais il est appelé à une royauté infiniment plus royale que celle qu'il pourra se donner. Et cette royauté plus royale que la royauté que l'on peut se donner, c'est celle que l'on vit lorsqu'on laisse agir Dieu en nous. Il y a une parole magnifique de Jean qui dit « Si ton cœur te condamne, sache que l'amour de Dieu est plus fort que ton cœur qui te condamne. » C'est un grand mystère de savoir comment tout d'un coup les âmes peuvent se retourner. Nous pouvons penser une chose, c'est que à force d'aller contre la vie se rebelle contre ce qui va contre elle. Et cette rébellion amène un retournement, une révolte de l'esprit, qui se manifeste en nous par la culpabilité, le repentir, le fait de tout d'un coup prendre conscience que on s'est rendu honteux et on a rendu la vie honteuse. Et donc de faire l'expérience de la vie divine qui se révèle à cette occasion. Nous pouvons être sauvés. Et c'est l'extraordinaire bonne nouvelle qui nous est donnée par les évangiles et la vie en Christ. Cette bonne nouvelle, nous allons la décliner dans les semaines qui viennent à travers la tempérance, la prudence, le courage, la justice, la foi, l'espérance et la charité. C'est Dostoïevski qui a admirablement compris les mécanismes du salut. En se damnant, les êtres qui se damnent se condamnent eux-mêmes. Ils aspirent à être eux-mêmes, mais ils se condamnent eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience du fait de se sentir fondamentalement aimé par une énergie, un amour, une puissance divine qui embrasse tout. D'où l'extraordinaire thérapie qui est celle du Christ, celle des pères, celle de la tradition, qui invite l'homme à apprendre à s'aimer lui-même et arrêter de se juger lui-même et de se condamner lui-même. Souvenons-nous de la fin des possédés de Dostoïevski, où le Starets Sosim dit à Stavrogin, qui est ivre de rage, de colère, « Si seulement vous pouviez vous pardonner à vous-même, si seulement vous pouviez arrêter de vous condamner, si seulement un moment vous pourriez accepter le vivant qui est en vous, à ce moment-là, la vie pourrait venir vers vous et transformer votre vie en la sortant de l'enfer.
Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește de pre noi. De multe ispite fiind cuprins, alergă către tine, căutând mântuirea mea. O Maica Cuvântului Fecioară, de supără și nevoi, mântuiește-mă. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește de pre noi. Folositoare vieții și acoperirea mea și scăpare de bun fecioară, tu îndreptează-mă către a tău adăpost, ceea ce ești întărirea și sprijinitoarea creștinilor pururea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceea ce ai născut pe cel ce dă binele, care este pricina bună.
C'était le chœur de la musique byzantine de Bucarest. Chers amis, le mois dernier, j'ai eu le plaisir de recevoir Francis Linglet qui nous a parlé de la relation entre la dent et d'autre part la vie spirituelle. Ce mois de mars, j'ai la joie d'accueillir le père Nicolas, recteur de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, rue Le Courbe à Paris, et Doriane, une paroissienne qui nous fait le plaisir et l'honneur de l'accompagner. Et nous allons, tout autour de ce mois de mars, bien d'une part les découvrir, et puis découvrir certains aspects de l'Église dont nous n'avons pas toujours l'habitude de parler. Chers amis, cher père Nicolas, chère Oriane, présentez-vous.
Je m'appelle, comme tu viens de dire, cher ami Bertrand, je suis Nicolas Sénocraque. Je dirais que je suis né quelque part. Je suis né en Dalmatie, en Croatie actuelle. Donc, ce monde qui appartenait jadis à mon grand-père, oui, au Yougoslavie, à la République de Venise, jusqu'au Napoléon. Donc, et après. Donc je suis né dans ce monde un peu mélangé un peu de tout. Et donc, je suis venu à Paris en 1973 pour étudier la théologie à l'Institut Saint-Serge. Donc, j'ai fait licence, j'ai fait un master, j'ai fait un doctorat que j'ai travaillé aux études. Et donc, après, je suis devenu professeur du Nouveau Testament et de ce qu'on appelle théologie ascétique. Mais en fait, ce sont plutôt un chapitre de patrologie, de paix de l'Église, mais plutôt d'expérience monastique. Donc, comme Saint-Isaac le Syrien, Macaire et beaucoup d'autres. Et je suis devenu prêtre ensuite, et j'ai célébré à l'Institut, à la paroisse de Saint-Serge. Ma première vraie paroisse était à Rome, et après
à Rome.
À Rome, je suis resté 4-5 années à Rome.
D'accord.
Mais j'ai voyagé, à vrai dire. J'ai voyagé et resté pour les grandes fêtes. Et ensuite, j'étais aussi à Tours pour une petite paroisse de Saint-Martin. Et après, je suis nommé, il y a 30 d'années, à la paroisse de Saint-Serge. On a
Saint-Serge ou Saint-Séraphin?
Saint-Séraphin, pardon.
Saint-Séraphin.
Saint-Séraphin. Donc, on a fait un même jubilé de Père Nicolas, donc à Saint-Séraphin, 30 d'années dans cette
l'année
paroisse.
L'année dernière, alors?
Cette année.
Cette année,
en mois de décembre.
D'accord. Voilà. Donc, en 93, au fond
Non, 94.
94, d'accord. 94.
Voilà,
okay.
Voilà, je suis devenu à Saint-Séraphin.
D'accord. Et puis, doyen aussi.
Ah oui, j'étais quand même à peu près 12 années à l'Institut, doyen de l'Institut. Donc, oui. Je suis à mérite en retraite.
Et dans des circonstances quand même qui n'étaient pas faciles. Il y avait un moment, il fallait maintenir Saint-Serge à flot.
Oui, oui. Vous savez, comme je connaissais et beaucoup aimé l'Institut, j'ai pris ça avec beaucoup de simplicité et d'une certaine stabilité et de confiance. Je portais avec moi tous ces anciens professeurs que j'ai beaucoup aimé, et donc je savais que c'était très important. À un moment donné, il y avait toutes sortes de crises à l'Institut, et quand je suis parti, l'Institut était vraiment sur le bon chemin.
Et maintenant, ça va beaucoup mieux.
Et
parce que
ça va vraiment.
Il y a beaucoup d'inscriptions d'étudiants étrangers, je crois qu'il y a.
Et dans cette direction que nous avons créée, on était à Boulevard Arago, donc pour 3 années, parce qu'il a fallu faire toutes sortes de travaux dans nos bâtiments. Et donc, et ça nous a fait vraiment bien de nous éloigner de lieu de Saint-Serge et de vivre en exil. Et ça nous a beaucoup d'idées de créer un nouvel système de disciplines académiques et d'autres. Et l'Institut, grâce à Dieu, marche très bien aujourd'hui.
Mais je me suis demandé comment vous arriviez à tout faire. Parce que vous aviez Saint-Serge, vous aviez Saint-Séraphin, vous aviez l'enseignement. Mais je me suis dit, mais comment fait-il plus les mariages, les baptêmes, les enterrements, les malades. Je me suis dit, mais cet homme est un saint.
Je te dis tout simplement, j'étais en esprit.
Oui.
Voilà, il faut avoir un peu d'esprit, il faut avoir un peu de flamme, il faut avoir un peu de simplicité. Et j'aime beaucoup aussi, nous avons élaboré un mot, de travailler les choses ensemble. Donc vraiment de la collégialité.
Alors,
collégialité, beaucoup, j'aimais beaucoup, parce qu'avant, quand même, j'ai connu l'Institut Saint-Serge, il y avait une sorte de monarchie, et comme je ne suis pas dans mon esprit monarchiste, je suis plutôt...
Démocrate.
Je ne sais pas si j'utilise mon... En tout cas, je suis démocrate.
Collégial.
Voilà. Collégial. Mais collégial, j'ai beaucoup aimé la collégialité. On posait la question, on parlait, et on cherchait le consensus. Donc, on trouvait toujours le consensus.
N'est-ce pas, c'est pas vous qui allez me contredire, chère Oriane. Vous êtes mère de famille, et une mère de famille, elles doivent tout faire.
Oui.
Elles doivent à la fois, il y a la maison, il y a le mari, il y a les enfants, il y a le travail, il y a beaucoup de choses.
Oui.
D'où venez-vous, chère Oriane?
Alors, d'où je viens? C'est une grande question pour tout le monde. Moi, j'ai demandé le baptême, en fait, dans l'Église catholique, quand j'avais 19 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre vraiment exceptionnel.
Vous n'étiez pas croyante avant, ou vous avez
alors,
découvert la foi?
Je pense que quand même, il y avait... mes parents donc, sont issus de cette génération des années 70 qui a profondément rejeté, en fait, l'Église. Ils avaient une expérience de l'Église qui était très difficile. Certainement...
Catholique.
catholiques, certainement à juste titre. Et ils sont rentrés très contestataires, plutôt intellectuels, très intellectuels, voire ésotériques.
Oui.
Donc j'ai été élevée dans ce milieu-là et moi je me suis, j'ai pas du tout trouvé ma place. Et par une expérience personnelle, vraiment j'ai été vraiment une rencontre avec le Christ. J'ai demandé mon baptême, le baptême dans l'Église catholique. Donc je ne connaissais rien du tout de l'Église. Donc évidemment les premiers pas, c'est vers l'Église catholique. J'ai eu la chance vraiment encore une fois de rencontrer un prêtre exceptionnel et on a eu des entretiens individuels pendant toute une année pour aller vers le baptême. Et à partir de là, donc j'étais dans l'église et je me suis pas du tout sentie bien en fait, surtout au sein de la liturgie. Il y avait, je trouvais une absence en fait de mystère qui était et du sens des sacrements qui n'était pas là. Et petit à petit, de fil en aiguille, donc j'ai été à Saint-Julien-le-Pauvre, qui est à côté de Notre-Dame, qui est l'église Melkite.
Et vous êtes arrivé par hasard là-bas ou
Oui, c'est des heureux hasards, quoi. Il n'y a jamais vraiment de hasard.
Surtout si c'est des hasards.
Voilà, c'est ça. Et donc là, j'ai vraiment une expérience extraordinaire où je me suis mariée, j'ai eu trois merveilleux enfants qui ont été élevés dans cette église du Moyen-Orient, qui est très joyeuse, très lumineuse,
et où très dynamique. Hein,
très dynamique. Ouais. Voilà,
on a été. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais. Là aussi, un prêtre, Père Nicolas Antiba, qui était vraiment extraordinaire, et on s'est vraiment fondu en fait dans cet esprit.
Libanais, syrien,
égyptien, voilà, c'était vraiment un monde fabuleux.
Et qui chante à la fois en arabe et en byzantin.
À l'époque, c'était, voilà, c'est ça, arabe, grec, français.
Oui.
Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus arabe.
Oui. Et byzantin, bien sûr.
Et là, j'ai vraiment découvert la puissance de la liturgie de Saint-Jean Chrysostome.
Oui.
Et par toute la gestuelle, en fait, qui était vraiment habitée. Et là, ça changeait tout, vraiment.
Gestuelle.
Oui, la gestuelle. Je pense que dans les gestes, ils sont habités ou pas.
Oui.
Et là, dans cette église où tout était important, à la fois le chant, à la fois la manière dont les gens étaient ensemble dans cette communauté, dans la gestuelle, dans l'attention portée l'un à l'autre, et même dans les gestes du prêtre. Oui. Il y avait quelque chose qui était très différent, que j'ai senti très différent, et c'était le lieu idéal finalement pour élever des enfants. Donc ils ont baigné là-dedans, maintenant ils sont grands, hein, ce sont des adultes. Et voilà, et puis après, de fil en aiguille, avec une histoire de vie, avec ses épreuves, hein, comme tout le monde, il y a eu une chose très très importante qui était la rencontre de l'Institut Saint-Serge, justement, où j'ai demandé donc à un prêtre catholique où je pouvais être formée à la lecture des évangiles. Mmh. Parce que, au fond, quand on est converti, on a cette flamme en nous qui est très puissante et magnifique, mais on a des lacunes en fait. Et on m'a proposé l'Institut Saint-Serge orthodoxe. Donc j'ai découvert ça et j'ai découvert donc le père Nicolas Chernokrak et j'ai vraiment été éblouie, quoi. C'était une deuxième conversion. J'avais une soif inouïe et j'aurais été capable de faire des kilomètres et des kilomètres pour pas rater un cours de l'Institut Saint-Serge, vraiment, et de père Nicolas. Et à partir de là, je pense que la graine était semée.
Oui, alors.
Donc c'est
père
là
Nicolas,
où
Saint-Séraphin, bah,
voilà,
Sarov,
c'est ça.
L'orthodoxie.
Exactement. Voilà. Et à un moment donné, voilà, on file des aiguilles, donc j'ai malheureusement divorcé. Et puis il y a eu des ruptures dans notre église Melkite, et qui fait que à un moment donné, il y a eu une évidence totale. Ouais. Et ça s'est fait très naturellement.
Et combien d'années vous êtes à Saint-Séraphin ?
Depuis le 12 décembre, qui est la fête de Saint-Spyridon, le 12 décembre 2020. C'était
d'accord,
en plein Covid, on était masqués.
D'accord.
C'était il y a 5 ans.
D'accord.
Et là, j'ai vraiment vu toute la différence, vraiment, vraiment. Un endroit merveilleux, donc peut-être qu'on en parlera plus tard.
On va en parler.
Oui, voilà.
En tout cas, un grand merci pour cette présentation qui laisse augurer du festin que nous allons savourer dans les prochains jours. Merci beaucoup. Et pour terminer cette émission, je vous propose à nouveau le chœur de la musique byzantine de Bucarest.
Maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
Comme un parfum qui nous revient de l'enfance, sans prévenir sonne l'inconscient. J'ai pris des trains, des bateaux qui dansent pour venir à l'évidence. De forêts vierges en océan caché, y a mille pièges où l'on se trahirait. J'ai pris le large et des chemins glacés pour revenir à qui j'étais. Car elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais loin. Oh oh oh. J'ai beau m'enfuir et de lui m'éloigner, je sais cet endroit à mes côtés. Ce serait mentir de dire qu'il est parfait, mais c'est lui qui m'a fait. Bien sûr les ratés, les ombres au tableau, bien sûr les méfaits, les défauts. Y a pas un pays sans tache au drapeau, mais lui me colle à la peau. Car elle, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint. Elle n'est jamais. C'est ma maison depuis mes premiers pas. C'est ma maison, je ne le savais pas. C'est ma maison, j'y reviens malgré moi. C'est ma maison
hey, c'est ma mère, c'est ma terre, c'est la gloire de nos pères, mon hémisphère naturel. Et elle me revient, me retient, elle est là d'où je viens, même si tout s'éteint.
Elle n'est jamais.